France Culture, merci d'être à l'écoute, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Manuel Valls doit déclarer sa candidature à l'élection présidentielle en fin d'après-midi à Évry et annoncer sa démission de son poste de Premier ministre. Analyse dans un instant de Ludovic Piétenu. Matteo Renzi remet, lui, sa démission au président de la République italienne. Près de 60% des électeurs ont rejeté hier le projet de révision des institutions que proposait le Premier ministre. Correspondance à Rome de Marie-Pierre Véraud. La défaite du candidat d'extrême droite à la présidentielle autrichienne, elle rassure les capitales européennes. Mais le FPE se projette maintenant sur les législatives. Analyse du scrutin avec Éric Biegala. Une réunion de l'Eurogroupe sur la situation financière de la Grèce. Aujourd'hui, les ministres des Finances espèrent toujours convaincre le FMI de se joindre au dernier plan d'aide accordé à Athènes. Explication d'Annabelle Grolier. Donald Trump, toujours à la recherche du futur chef de sa diplomatie. En attendant, il multiplie les commentaires critiques vis-à-vis de Pékin, commentaires de Nadine Epstein. Le climat de Beaumont-sur-Oise dans le Val d'Oise, tendu depuis la mort en juillet d'Adama Traoré, s'est de nouveau détérioré. Scène de violence urbaine, bus et voitures incendiées. Conseil municipal annulé, reportage dans cette édition d'Élodie Forêt à Boyanval. C'est le quartier où vit une grande partie de la famille Traoré. Et dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Gesbert.
Je vous retrouve à partir de 12h55 avec l'essayiste économiste Nicolas Bouzou. Notre monde s'effondre, mais pas sans optimisme. Il signe un essai chez Plon. L'innovation sauvera le monde. On en reparle dans une vingtaine de minutes.
Manuel Valls déjeune donc avec François Hollande à l'Élysée en ce moment. L'entourage du Premier ministre confirmait ce matin qu'il devrait annoncer tout à l'heure à Évry sa candidature à la primaire à gauche, en tout cas à la présidentielle. On ne sait pas sous quelle forme exactement encore maintenant. Nous sommes 4 jours après le renoncement de François Hollande. Le Premier ministre semble donc décidé à se lancer dans la bataille. Il devrait démissionner si c'était le cas pour mener campagne. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors plusieurs questions évidemment ce matin. On attend la nouvelle sur l'annonce. 18h30 ce soir dans sa ville d'Évry, Manuel Valls se prépare en tout cas une tâche difficile parce qu'il faut à la fois assumer l'héritage du quinquennat et se présenter comme l'homme du renouveau à gauche.
Que cela va lui être difficile, imaginez une campagne et des débats télé avec des candidats qui vous rappellent sans cesse ce dont vous souhaitez vous extraire, à savoir le bilan. Hamon, Montebourg, Filoche, Lindemann, si toutes ces candidatures-là reçoivent un nombre de parrainages suffisant, bien sûr, ils ne manqueront pas de le lui rappeler. L'utilisation du 49-3 sur la loi Macron et sur la loi El Khomri, ses positions tranchées sur les sujets sociétaux comme la laïcité, sa déclaration nette en début d'année, c'était au mois de février, sur les deux gauches irréconciliables. Il a beau avoir changé sur ces sujets depuis le mois de septembre, se poser en rassembleur de la gauche et souhaiter parler de projet plutôt que de bilan, difficile semble-t-il d'éviter les retours de bâton de tels actes ou déclarations. Et puis, sur le style aussi, la forme, ne risque-t-il pas de subir à son tour le sortez les sortants très en vogue, qui concernait bien sûr François Hollande, mais qu'il concerne aussi, de fait, ne risque-t-il pas aussi, avec une campagne très dynamique, beaucoup de déplacements, un certain bougisme qui ne serait pas sans rappeler un personnage auquel il a pu être comparé en son temps, Nicolas Sarkozy, à qui lui aussi les électeurs viennent d'indiquer la porte de sortie. Enfin, que penser de l'échec la nuit dernière du Premier ministre italien Matteo Renzi, cette figure du sémillant quadra. Manuel Valls est un quinca, mais au diable le détail, la comparaison est surtout politique, cette figure de réformateur qui a trouvé la nuit dernière ses limites.
Alors en tout cas, si Manuel Valls est candidat, comme tout semble l'indiquer à l'heure qu'il est, ça va avoir deux conséquences. D'abord sur la gauche, sur la primaire à gauche, effectivement, et aussi sur le gouvernement. On commence peut-être par là, puisqu'il est probable qu'en cas de candidature, il y aura démission de Manuel Valls, et il devrait être assez rapidement remplacé par un proche du chef de l'État.
Dans le jeu des pronostics, Bernard Cazeneuve semblait tenir la corde il y a encore quelques jours, mais il serait mieux désormais de le garder à l'intérieur dans un contexte de menace terroriste. Alors on évoque désormais trois fidèles présents depuis le début du quinquennat, Michel Sapin, Stéphane Le Foll et Marisol Touraine, tous ont de très bonnes raisons d'espérer. Une femme enverrait un signal plus fort pour des socialistes qui veulent représenter le camp des progressistes.
Alors comment se présente maintenant, dernière question Ludovic, cette primaire à gauche avec Valls entrant dans le jeu?
Alors Valls entrant dans le jeu, ça ferait 8 candidatures, si on retient celle de Pierre Larouturou pour Nouvelle Donne, ce qui n'est pas encore acquis. 8 candidatures, la candidature de Valls déclenchant peut-être une candidature de Christiane Taubira 9, peut-être une candidature de la Hollandie 10. Là, on n'est plus dans la belle alliance populaire, mais le beau désordre populaire.
Merci beaucoup, Ludovic Piétenu. Et maintenant, l'Italie. Matteo Renzi doit remettre cet après-midi sa démission au président de la République, Sergio Mattarella. Près de 60% des électeurs ont rejeté en effet ce projet de révision, essentiellement du Sénat, révision des institutions que proposait le Premier ministre. J'ai perdu, j'en prends toute la responsabilité, déclarait-il hier soir. Le président pourrait convoquer des élections anticipées, soit plus probablement nommer un gouvernement technique comme l'Italie en a déjà connu, qui serait chargé aussi de cette fameuse réforme de la loi électorale. En tout cas, les responsables du mouvement 5 étoiles et de la Ligue du Nord réclament ce matin une dissolution immédiate du Parlement. On est en ligne avec Marie-Pierre Véraud. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, un mot d'abord évidemment du scrutin, non assez massif que les électeurs apportent à cette question posée, 59,1%. Pour rendre raison de l'ampleur de ce rejet, il faut sans doute conjuguer plusieurs facteurs, la personnalité du Premier ministre, mais aussi bien sûr l'hostilité à la politique européenne, mais encore ce que l'on appelle depuis plus d'un an maintenant cette vague populiste, même si le terme ne s'applique pas forcément exactement au mouvement 5 étoiles qui touche de nombreux pays.
Oui, et c'est un désaveu très net de Matteo Renzi, avec une participation exceptionnelle de près de 70%. 19 millions d'Italiens ont dit non à Renzi, 6 millions de plus que ceux qui ont approuvé sa réforme constitutionnelle. Et c'est toute l'Italie, en quelque sorte, qui a pris la couleur rouge du non, à l'exception de trois régions, la Toscane, l'Émilie-Romagne et le Trentin, dans le Nord-Est. Et encore, le oui n'y a pas fait des scores mirobolants. Il y a de premières indications sur la sociologie du vote ce matin. Les jeunes ont massivement rejeté la réforme. 81% des 18-34 ans pour le non, alors que les plus de 50 ans ont eux voté oui, mais à une petite majorité de 53%. On remarque aussi que le non a fait des scores plus élevés dans les régions où le taux de chômage est le plus fort. Un autre enseignement intéressant ce matin, c'est que le vote non est un vote contre Renzi et non sur la réforme, alors que ceux qui ont choisi le oui l'ont fait pour le changement promis par la réforme constitutionnelle et non pour soutenir Matteo Renzi. Et c'est bien l'une des clés de ce référendum dont vous parliez. Matteo Renzi l'a personnalisé en mettant sa démission dans la balance. Or, c'est une personnalité clivante. Beaucoup d'Italiens que j'ai pu rencontrer, que ce soit à Naples ou à Rome ces derniers jours, m'ont dit qu'ils n'en pouvaient plus de sa manière de faire de la politique, en se mettant en avant avec arrogance, en faisant des coups, beaucoup de communication, de slogans. Il était en permanence sur les réseaux sociaux et ces Italiens me disaient « Vous, vous l'aimez bien à Paris et à Bruxelles, mais pour nous, il est un peu comme Berlusconi, c'est un provocateur. » D'ailleurs, même la nuit dernière, en annonçant sa démission, Matteo Renzi n'a pu résister à faire un jeu de mots. « Je voulais supprimer les sièges au Sénat qui sont trop nombreux », a-t-il dit. Et bien finalement, c'est mon siège qui va sauter. Les Italiens, en fait, en ont marre de la politique spectacle, d'autant que les réformes Renzi, notamment celles du marché du travail, n'ont pas donné les résultats espérés. Alors, il y a un deuxième moteur à ce nom. C'est un nom à l'Europe de l'austérité, l'Europe qui a abandonné l'Italie dans la crise économique, dans la crise des migrants. Et Renzi est considéré par beaucoup comme étant à la solde de cette Europe libérale. Enfin, le troisième facteur, c'est que le mouvement 5 étoile n'est pas l'épouvantail que l'on peut imaginer vu de Paris. Et donc agiter le spectre de son arrivée au pouvoir en cas d'échec de Renzi et d'élection anticipée n'a pas fait peur aux Italiens.
Merci Marie-Pierre Véraud, on revient vers vous tout de suite pour voir la suite politique. Mais d'abord, je vous propose d'entendre parmi les réactions en France celle d'Arnaud Montebourg, candidat à la primaire organisée par le Parti Socialiste, qui parle de rébellion contre ses politiques d'austérité.
Ça signifie quelque chose pour les politiques d'austérité européennes qui ont été imposées dans tous les pays. Les Italiens n'ont pas connu de croissance depuis une décennie. Ils se sont appauvris, perdu des revenus. Et dans toutes les catégories socio-professionnelles, l'explosion des inégalités est allée de pair avec la chute du revenu moyen. Donc c'est une rébellion contre ces politiques d'austérité qui sont décidées à Bruxelles.
C'est une tendance générale, imposées. Selon vous. Les gens se mobilisent beaucoup.
C'est une rébellion qui est dans tous les pays européens. Et de manière générale, la reprise du pouvoir par les citoyens sur l'économie par le bulletin de vote est un phénomène qui est naturel.
Arnaud Montebourg ce matin, c'était sur France 2. Retour vers vous Marie-Pierre avec un petit mot quand même de la suite. Comment ça peut évoluer cette situation politique et par qui Renzi peut-il être remplacé ?
Bien, écoutez, dans l'immédiat, vous le disiez, Renzi va tenir son dernier conseil des ministres tout à l'heure, puis il remettra sa démission au président Mattarella. Celui-ci va charger un nouveau président du conseil de former un nouveau gouvernement. Deux noms circulent, dont celui du ministre des Finances, qui serait en mesure de rassurer les marchés. On sait que les banques italiennes sont dans une situation très difficile. Alors, il est possible qu'il s'agisse juste d'un gouvernement technique qui fera adopter le budget et une nouvelle loi électorale pour les législatives de 2018. Mais le mouvement 5 étoiles, notamment, réclame des élections dès l'année prochaine. La loi qui accorde une prime majoritaire aux partis arrivant en tête pourrait le favoriser. Or, seul le président a le pouvoir de dissoudre la Chambre et de convoquer des élections anticipées. Et il semble que ce ne soit pas l'hypothèse qui tienne actuellement la corde.
Marie-Pierre Vérot, merci beaucoup. Et on est en ligne maintenant avec Fabio Massimo Castaldo, qui est député européen, membre du mouvement 5 étoiles. Bonjour, monsieur.
Bonjour à vous.
Alors, on a vu trois raisons, là, Renzi, la personnalité de Renzi, la politique européenne et puis ce qu'on appelle plus généralement le mouvement populiste. Je ne sais pas si vous acceptez ce terme. Qu'est-ce qui a été déterminant selon vous dans ce vote?
Franchement, déjà, mouvement populiste, qu'est-ce que ça veut dire le mot populisme? C'est une belle question parce que apparemment il y a plusieurs sens de selon si ça veut dire pousser au fond que la politique retourne un peu plus proche à ceux qui sont les souhaits et avec un contact plus direct avec le peuple, c'est tout à fait quelque chose qui pourrait bien nous encadrer aussi. Si ça veut dire, par contre, dans son acception négative du terme comme extrémisme, manque de vision, de professionnalité et tout ça. Donc, dans ce cas-là, on ne l'accepte
d'accord.
Pas du tout. Donc,
merci pour cette mise au point terminologique. Est-ce que vous pensez maintenant sur ce résultat? Comment vous l'interprétez fondamentalement, ce résultat?
Moi, je pense que la réponse menée par le peuple italien a été assez claire. Il y a eu un taux de participation qui n'est pas du tout normal pour un référendum. On est arrivé presque aux 70%, ce qui n'arrivait depuis longtemps pour un référendum. C'est un résultat beaucoup plus proche à une élection politique nationale qu'à un référendum. Et je pense que dans ce sens-là, il y a eu un mix de facteurs que vous avez évoqués. Tout d'abord, Matteo Renzi, il est tombé dans le piège que lui-même il a bâti pendant ces mois. Il a voulu, plus qu'un référendum, un plébiscite sur sa personne. Du début, il a dit, ce n'est pas seulement un référendum sur les réformes, moi, si je perds ce référendum, ma carrière politique est finie, je vais démissionner et tout ça. Donc, c'était une conséquence directe de son choix. Il aurait pu bien dire, donc, c'est une réforme, je vais me soumettre à l'opinion du peuple. Si je le perds, bon, j'accepte et je continue mon parcours politique. Donc, il y a eu un mix d'arrogance et de vouloir être trop protagoniste de la scène politique. Peut-être c'était aussi un peu une conséquence de la victoire qu'il avait eue aux élections européennes.
Mais justement, est-ce que c'est un vote anti-européen aussi, selon vous?
À mon avis, ça pourrait être aussi un vote très, très européen, parce que moi, je pense que la politique d'austérité qu'on a vue dans les années passées, et dans ces années, ça soit profondément anti-européenne, en soi-même, parce que c'est justement cette politique et cette volonté qui a coupé en deux l'Europe. D'un côté, les pays méditerranéens, où de plus en plus, il y a une pauvreté et des inégalités croissantes. De l'autre côté, l'Europe du Nord germano-centrique, où par contre les exports et la balance commerciale continuent à s'accroître et même à profiter aussi d'un certain point de vue de ce qui a dû faire Draghi avec sa politique un peu plus expansive du quantitative easing. Cette année, l'Allemagne elle a eu un solde positif qui représente à peu près l'équivalent du PIB de la Belgique. C'est quelque chose qui, bien sûr, ne peut que nuire à la cohérence, à la cohésion interne de l'Union. Et donc, dans ce point de vue, je le vois comme un vote, un gifle positif à l'Union européenne pour qu'elle comprenne qu'avec cette politique, l'extrémisation de cette politique, on ne va pas aller loin. Moi, je suis pas ici pour défendre les dettes en soi-même. Moi, je suis complètement convaincu que la plupart des dettes publiques aujourd'hui de l'Italie, elles ont été utilisées dans les décennies passées pour le clientélisme et pour des raisons qui n'étaient pas trop liées au développement du pays. Mais je dis aussi qu'un instrument n'est pas ni mauvais ni bon en soi-même. On peut avoir un usage bon ou un usage mauvais. Dans ce moment-là, on aurait besoin d'une stimulation plus forte de l'économie qui ne peut que passer par un investissement aussi public, des manœuvres un peu plus keynésiennes pour créer de la croissance. Si on ne va pas créer de la croissance, ça veut dire vraiment jeter le pays méditerranéen dans le chaos. On a déjà vu la recette en Grèce, qu'est-ce qu'elle a fait, et le degré aussi de pauvreté qu'il y a aussi dans ces pays qui, parfois, il y a des situations sociales qui sont plus proches au tiers-monde qu'un pays européen.
Merci beaucoup, Fabio Massimo Castaldo, d'avoir accepté cette invitation. Justement, on va continuer sur ce même thème puisqu'on évoque la situation en Grèce avant d'analyser les résultats de l'autre scrutin qui retient l'attention, la victoire de l'écologiste Van der Bellen en Autriche. Un mot donc de cette réunion de l'Eurogroupe sur la situation financière de la Grèce qui se déroule dans un contexte tendu après donc la démission de Renzi et les risques de turbulence sur les marchés. Les ministres des Finances espèrent toujours convaincre le FMI de se joindre à ce dernier plan d'aide, accordé à Athènes. Annabelle Grelier.
Les mesures qui sont sur la table des ministres des Finances concernent le court terme. Elles portent sur l'extension de la maturité de certaines dettes, d'une moyenne de 28 ans actuellement à 32 ans, sur le lissage des taux d'intérêt pour éviter qu'une remontée dans les mois qui viennent ne provoque des difficultés pour le pays, et sur la levée d'une pénalité de taux d'intérêt due en 2017 sur certains prêts. Ces mesures pourraient réduire la dette d'un cinquième d'ici à 2060, soit environ 200 millions d'euros. Une goutte d'eau comparée aux 320 milliards d'euros de la dette grecque. En échange, les pays de la zone euro demandent à la Grèce de libéraliser son économie et de procéder à des privatisations. De son côté, Athènes ne compte pas aller plus loin sur les réformes du marché du travail et du secteur de l'énergie réclamées à son pays. Par ailleurs, le conflit qui oppose l'Europe et particulièrement l'Allemagne et le FMI, les deux grands créanciers de la Grèce, se résoudra-t-il aujourd'hui ? Peu de chance. Le FMI juge que les demandes allemandes en matière d'objectifs budgétaires sont irréalistes en l'absence de mesures d'allègement significatives sur la dette. Mais le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, assure ne rien vouloir lâcher. Une position de fermeté sans doute accentuée par la perspective des élections prévues dans les prochains mois dans plusieurs pays d'Europe, et notamment en France et en Allemagne, qui auraient bien du mal à passer ou à être justifiées devant les contribuables et électeurs.
Annabelle Grelier, on salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, l'économiste et essayiste Nicolas Bouzou. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous expliquerez tout à l'heure comment l'innovation sauvera le monde. En tout cas, c'est le titre donc de votre livre paru chez Plon, qui se veut résolument optimiste, comme on entend dans ce titre. Mais quand même, sur l'Europe, on se pose toujours la question de savoir si on est ou pas sorti de ce fameux risque systémique qu'on évoque depuis la crise de 2008 notamment.
Non, on n'est pas sorti de ce risque systémique, notamment parce que l'Europe ne s'est pas encore véritablement réformée de l'intérieur. Et ce qu'on vient entendre sur la Grèce est très symptomatique. Au fond, aujourd'hui, l'Europe et la Grèce sont sous le joug d'une espèce de diktat allemand, notamment de M. Schäuble, qui explique qu'il ne faut absolument pas alléger la dette grecque, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas des raisons économiques, mais qui sont presque des raisons morales. Le discours allemand, c'est un discours un peu moralisateur, qui consiste à dire que quand on s'est endetté, on doit rembourser. Bon, sauf que l'État grec, de fait, il est insolvable. Il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été faites en Grèce, qui d'ailleurs ont été demandées par la Commission européenne. Il y en a d'autres qui vont être faites. Alors l'annuler, vous allez peut-être un petit peu loin, mais en tout cas, il faut l'alléger considérablement, comme tous les pays développés, d'ailleurs, l'ont fait pour les pays d'Amérique latine, par exemple, dans les années 80, pour un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne dans les années 90. Et ce sont des politiques qui ont bien fonctionné. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au fond, il faut qu'on aille vers plus d'intégration à l'intérieur de la zone euro, parce qu'aujourd'hui, ce manque d'intégration, au fond, il est compensé d'un côté par la Commission européenne qui prend un poids exagéré, et de l'autre politiquement, par les Allemands qui régentent d'une certaine façon l'Union européenne et encore plus la zone euro, et c'est ça qu'il faut changer.
Nicolas Bouzou, merci beaucoup, on verra comment l'innovation peut sauver le monde avec vous dans la dernière partie de la Grande Table. On en vient à ce scrutin autrichien maintenant, à l'inverse du non italien, la défaite du candidat d'extrême droite à la présidentielle autrichienne rassure les capitales européennes. Ce matin, le FPE se projette toutefois maintenant vers les élections législatives à venir. Victoire donc de l'écologiste libéral Alexander Van der Bellen, qui l'emporte assez nettement, contrairement au précédent scrutin. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors comment on analyse ces résultats à Vienne ?
Eh bien, si l'on a pu parler ici en Autriche d'un effet Trump sur la campagne présidentielle, comprenez d'un tabou qui aurait été levé avec l'élection d'un populiste dans une démocratie occidentale, un effet Trump qui donc aurait pu galvaniser le camp de l'extrême droite autrichienne, il y a eu aussi un effet Brexit qui, lui, a eu l'effet complètement inverse. Les Autrichiens se défiant généralement des discours anti-européens. D'ailleurs, quand on lui a demandé hier soir ce qui, selon lui, avait permis sa large victoire, Alexander Van der Bellen a mentionné essentiellement deux thèmes.
Depuis le début de la campagne, j'ai argumenté pour une Autriche pro-européenne et pour les valeurs qui sont essentielles pour moi. La liberté, la solidarité, l'égalité. Des valeurs qui ne fonctionnent pas si bien que ça dans notre société d'aujourd'hui.
La liberté, l'égalité et la solidarité, des valeurs classiques des partis et mouvements de centre-gauche ou sociaux-démocrates. Et puis l'Europe, bien sûr. Dans la foulée du vote britannique du mois de juin, du Brexit, le candidat d'extrême droite autrichien Norbert Hofer s'était risqué à évoquer la possibilité d'un exit, d'une sortie de l'Autriche de l'Union européenne et la convocation d'un référendum sur la question s'il était élu. Lourde erreur, très lourde erreur, d'ailleurs assez vite reconnue par Hofer lui-même, qui s'était empressé de rétro-pédaler sur ce thème. Mais le mal était fait. Les Autrichiens, en effet, se déclare pro-européen pour les deux tiers d'entre eux, et ce de façon absolument constante depuis 20 ans. D'ailleurs, quand un institut de sondage a demandé hier soir aux électeurs de Van der Bellen les raisons de leur choix, deux réponses se détachent. 67% des Autrichiens ayant voté pour le candidat écolo l'ont fait parce qu'il était celui le mieux à même de représenter le pays sur la scène internationale, et 65% disent avoir voté pour lui aussi parce qu'il apparaissait comme le plus pro-européen.
Éric Biégala, merci. En direct de Vienne, Donald Trump va repartir ce matin, puisque le jour se lève aux États-Unis, à la recherche du futur chef de sa diplomatie. En attendant, il a multiplié les commentaires plutôt critiques vis-à-vis de Pékin sur Twitter, par exemple. Hier, Donald Trump critiquait les politiques de la Chine en matière de taux de change, de commerce et de défense, ne manifestant ainsi apparemment aucune volonté d'apaisement après les remous. D'autres déclarations provoquées notamment par un échange téléphonique avec la présidente taïwanaise, Nadine Epstein.
Oui, et parmi les nombreuses critiques contre cette conversation téléphonique entre Donald Trump et la présidente de Taïwan, celle de notre ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, il y a un proverbe chinois, explique le sénateur de la Vienne, qui dit que celui qui est imprévisible est un ennemi. Et il conclut, il faut être prévisible en politique, le monde est trop dangereux aujourd'hui pour qu'on se laisse tenter par l'aventure. Fin de citation. Vive réaction également de la part de Pékin, via la presse chinoise. Le Global Times écrit que la question de Taïwan est l'un des sujets les plus sensibles en Asie orientale, et si l'on s'y prend mal, cela pourrait conduire à la guerre, et le journal de conseiller un renforcement militaire chinois au large du territoire insulaire et des sanctions contre Taipei. En revanche, le quotidien prône le dialogue avec le futur nouvel hôte de la Maison-Blanche. Un ménagement à l'égard de Donald Trump a rapproché peut-être au fait que le successeur de Barack Obama a récemment vu le chef du gouvernement japonais, Shinzo Abe, premier dirigeant étranger à rencontrer Trump, s'est inquiété de la toute-puissance de la Chine dans les mers de la région. Peu soucieux des usages diplomatiques, dans un tweet semi-provocateur, Donald Trump reproche à la Chine d'avoir baissé la valeur de la monnaie pour augmenter les exportations et l'accuse d'édifier un immense ensemble de bâtiments militaires en mer de Chine méridionale. Difficile de savoir vraiment si Donald Trump a commis une erreur d'appréciation sur la portée de sa conversation avec la présidente taïwanaise ou s'il a calculé son geste pour dénoncer l'attitude chinoise en matière de concurrence commerciale ou de change.
Merci Nadine Epstein. Retour en France pour terminer cette édition avec un focus sur la situation qui prévaut dans la ville de Beaumont-sur-Oise. C'est dans le Val d'Oise, comme son nom l'indique, et ces deux dernières semaines, eh bien, le climat dans cette ville s'était tendu, on le sait, depuis la mort en juillet d'Adama Traoré, et il s'est à nouveau détérioré. Des scènes de violences urbaines, des bus, des voitures incendiées, un conseil municipal qui a dû être annulé, et la gendarmerie est convaincue que les mesures sécuritaires ne suffisent plus maintenant, qu'il faut aussi renouer le dialogue. Élodie Forêt, bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous êtes rendu sur ce quartier de Boyanval, qui est un quartier où vit donc une grande partie de la famille Traoré. Un quartier d'apparence assez calme, où on n'imagine pas franchement ce genre de scène.
Non, c'est un quartier légèrement excentré, avec des pavillons propres, des immeubles pas plus hauts que 4 étages. Ici, les habitants se connaissent tous, s'appellent par leur prénom. On est vraiment loin de l'image de la cité sensible. Et pourtant, depuis juillet, tout a basculé depuis la mort d'Adama Traoré, ce jeune de 24 ans, décédé dans les locaux de la gendarmerie de la commune voisine de Persan, après avoir été interpellé. L'affaire a déchiré la ville, montant les habitants de Boyanval contre les gendarmes et contre la maire UDI Nathalie Groux, accusée par la famille Traoré de ne jamais avoir présenté ses condoléances, accusée aussi d'être responsable d'une certaine dérive sécuritaire, d'avoir promu la tolérance zéro. 4 mois donc que la famille et les habitants dénoncent une bavure, réclament justice et que les scènes de violence s'enchaînent. Et face à ces violences, la première réponse de la préfecture et de la gendarmerie est sécuritaire, bien sûr, avec un déploiement d'hommes impressionnant, jusqu'à 170 gendarmes la nuit. Mais depuis aujourd'hui, comme vous le disiez, les forces de l'ordre tentent une autre approche avec plusieurs dispositifs d'apaisement. Une gendarme réserviste sera notamment chargée de reprendre contact avec la population. Une tâche qui risque d'être compliquée. Écoutez la réaction des habitants de Boyanval.
On a confiance qu'en nous-mêmes. Quand on voit les gendarmes ou les pompiers, on n'a plus confiance en eux. C'est fini.
Si un gendarme vient là et essaie de discuter avec les habitants, comment il sera reçu?
Je sais pas. Ça dépendra de comment il parle, de comment il se présente.
S'il se comporte mal vis-à-vis des gens, ben, à mon avis, ça risque de mal finir.
L'épisode de trop pour ses habitants, c'est clairement ce bus qui a brûlé à l'entrée du quartier il y a 15 jours. Ils ont eux-mêmes éteint l'incendie. Les pompiers ne sont pas intervenus par peur d'être caillassés. Alors maintenant, leur sécurité, eh bien, ils préfèrent la confier à des jeunes de Beaumont qui font des rondes le soir. Ils ont même collé des affiches dans les halls d'immeubles avec un numéro d'urgence à appeler en cas de problème.
Les jeunes de Beaumont, ils savent ce qu'ils font, ils savent calmer les gens. Que les forces de l'ordre, en général, ça finit toujours un peu mal.
Les gendarmes, ça fait beaucoup plus peur.
Les habitants, au moins, on les connaît?
Bah, c'est surtout ça. Parce que moi, ça fait 11 ans que j'habite ici, les 3/4 des gens, je les connais, les jeunes, je les connais. Donc c'est plus rassurant que ce soit eux qui le fassent que directement la gendarmerie.
Alors c'est peut-être plus rassurant, mais c'est à la limite de la légalité, prévient la gendarmerie. Aucune patrouille ou brigade civile ne peut se substituer aux forces de l'ordre.
Merci Élodie Forêt pour ces scènes de la vie quotidienne donc à Beaumont-sur-Oise. Un temps couvert sur le midi, ensoleillé ailleurs, des températures de 3 à 16 degrés. Édition réalisée avec Brice Garcia et le prochain journal est à 18h avec Stanislas Vazak.